les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli. Bonjour, comme chaque mois je vous propose une chronique comme préservatif de l'erreur, des préjugés et des malentendus. Chronique qui éclaire l'actualité à la lumière des philosophes. Aujourd'hui je vais travailler sur un paradoxe. Pourquoi avons-nous besoin de reconstruire à l'identique les monuments du passé alors que notre société voue un culte au progrès et à l'évolution? La restauration de Notre-Dame de Paris va à bon train. Elle devrait rouvrir ses portes le 8 décembre 2024. Mais est-ce vraiment le même édifice que nous pourrons tous visiter? Certes, elle va être reconstruite à l'identique, y compris sa flèche caractéristique. Mais dans le même temps, c'est un autre monument, avec des murs différents, des poutres neuves sous un toit changé, une flèche différente. Sera-ce le même bâtiment sacré? Les fidèles diront oui. Retrouver le lieu tel qu'il était avant l'incendie semble être un enjeu formidable, comme si l'authenticité de la prière avait un lien avec la reproduction à l'identique du monument qui, pourtant, a connu de multiples modifications au cours des siècles et que nous avons tous vu brûler en ce mois d'avril 2019 et que nous souhaitons ériger exactement tel qu'il était.
C'est une image qui a ému le monde entier. Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris, rongée par les flammes, et plus de 400 pompiers qui combattent le feu pour sauver le monument emblématique de la capitale. En 5 ans, le projet de restauration a connu plusieurs étapes. En 2021, Notre-Dame devient la cathédrale de fer. 1200 tonnes d'échafaudage sont installées pour sécuriser et consolider le bâtiment. Puis vint le temps de la reconstruction, de la charpente d'abord en 2023. Pour cela, près de 2000 chênes ont été coupés dans les forêts françaises. Avant que les artisans d'art ne s'attaquent à la flèche, reproduction à l'identique de celle pensée par l'architecte Viollet-le-Duc en 1859, sans oublier le coq qui retrouve sa place en son sommet.
Pourtant, rien, ou presque, si ce n'est quelques murs de la façade, restera de l'ancien. Tout se trouvera différent. Pourquoi dès lors avoir le besoin de reconstruire le même édifice à l'identique? Pourquoi n'en a-t-on pas profité pour construire autre chose? Quel besoin avions-nous de retrouver ainsi la cathédrale? Au-delà des fidèles qui iront à nouveau prier et communier, tous les curieux, qui ne sont pas catholiques, pourquoi ont-ils un tel attachement à l'illusion de l'édification du semblable? Car il y a un paradoxe dans la restauration. Restaurer Notre-Dame de Paris à l'identique, n'est-ce pas justement trahir l'identité de ce qui existait en remplaçant les pièces d'origine, calcinées, par des pièces neuves mais étrangères à la cathédrale d'origine? L'identité est-elle, dans la forme de la cathédrale, en particulier ce qu'on voit, c'est-à-dire la fameuse flèche qui date du XIXe siècle, ou dans la sacralisation du lieu pour des activités religieuses et ou touristiques, quel que soit ce lieu, quelle que soit la forme qu'il prend? Il va sans dire que Notre-Dame appartient à notre patrimoine commun, que nous soyons pieux ou pas. Il était important de la reconstruire. Nous allons éclairer notre propos en racontant une légende. Thésée était le héros grec qui avait combattu et vaincu le Minotaure. Lorsqu'il revint à Athènes, les Grecs, en souvenir de son exploit, voulurent conserver son navire le plus longtemps possible. C'est Plutarque, dans La vie des hommes illustres, qui raconte le mieux ce qui se passa. Le vaisseau de Thésée était une galère à 30 rames, que les Athéniens conservèrent plus de 4 siècles. Ils en ôtaient les vieilles pièces à mesure qu'elles se gâtaient et les remplaçaient par des neuves qui joignaient solidement aux anciennes. Les uns soutiennent que c'était toujours le même, les autres, que c'était un vaisseau différent. Beaucoup plus tard, au XVIIe siècle, un philosophe anglais, Thomas Hobbes, proposa l'expérience de pensée suivante dans son livre De corpore. Imaginons que, avec les pièces remplacées, l'on ait reconstruit le bateau de Thésée à l'identique plus loin. Et si un homme avait gardé les vieilles planches qui ont été enlevées et les avait ensuite assemblées dans le même ordre pour en faire un bateau? Celui-ci, sans doute, serait le même bateau que celui du départ.
Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léché. Toujours le même petit sourire. Qui un petit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé.
On aurait ainsi deux bateaux de Thésée. Celui des pièces usées, en très mauvais état, et celui des pièces remplacées, neuf et capable de refaire la même odyssée. Pour Thomas Hobbes, il est bien certain que c'est le navire en ruine qui est le bateau de Thésée, puisque ce sont sur ces pièces que Thésée a navigué, bien qu'elles soient usées. Nous ne pourrons jamais retrouver le même. Celui qui est reconstruit est différent. C'est un autre, qui ressemble, mais qui n'est pas celui des origines. L'un des deux est le bateau de Thésée, et ça ne peut pas être les deux, puisque ça voudrait dire qu'il y a deux bateaux de Thésée, ce qui serait absurde. Sa légende est construite sur son caractère unique. Quel est le vrai ? Dans un cas, l'identité repose sur la forme du navire, peu importe les matériaux utilisés. Dans l'autre, c'est la matière conservée qui assure l'authenticité du navire, même s'il est inutilisable. Traduction. Sera-ce la même cathédrale, Notre-Dame de Paris, ou une autre que nous visiterons ? La question est bien futile, me direz-vous. Et pourtant, tant de polémiques et de discours sur l'affaire lorsqu'il fallut choisir les plans de reconstruction. Et le président de la République a sans doute bien senti, lorsqu'il trancha en faveur d'une reconstruction à l'identique, que c'était un vœu de la nation tout entière, y compris chez les laïcs et les athées. Il fallait retrouver cette silhouette qui symbolisait la stabilité et l'héritage en ces périodes de si forts changements.
Vous demandez, cher voisin, pourquoi je suis venu m'installer ici ?
Ah ça oui, je me le demande.
Eh bien, parce que j'en suis arrivé à la conclusion irréfutable que le seul bonheur possible, c'est d'être un homme de la nature. Je suis venu ici pour cultiver l'authentique.
L'authentique ?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il veut planter ?
Il veut planter de l'authentique. De l'authentique partout. Qu'est-ce que c'est ?
Un truc de plante qui pousse dans les livres.
Néanmoins, c'est indéniable. Ce ne sera pas la même cathédrale. Une autre situation est intéressante. Nous ne pouvons plus visiter la grotte de Lascaux depuis des dizaines d'années. Presque personne n'a jamais pénétré dans la grotte de Chauvet, en Ardèche, après sa découverte il y a 25 ans. Nous ne pouvons contempler que leurs facs similés. Certes, on nous certifie que c'est une reproduction à l'identique. Et grâce à cela, nous pouvons découvrir l'art rupestre vieux de 20 000 ans. Mais ce ne sont pas les vraies cavernes que nous voyons. Ce ne sont pas les vrais dessins réalisés par des mains humaines il y a des millénaires. Ce sont juste des reproductions modernes. L'émotion ne peut pas être la même. Il s'agit que d'un faux.
Ben en fait, l'idée de Lascaux 2, elle vient directement de la fermeture de la vraie grotte, voilà, qui a été fermée en 63. Le propriétaire des lieux, qui s'appelle le comte de la Rochefoucauld, qui exploite la grotte, pense qu'elle va réouvrir. Il finit en fait par céder la grotte à l'État en 1972, en gardant les droits de reproduction, et à quelques donc 150 mètres de la vraie grotte, ici, dans une carrière, il va développer le projet Lascaux 2.
Nous avons besoin de l'original, de le sentir, de l'approcher, de nous en inspirer, pour ne pas avoir le sentiment que, sinon, les métaverses proposés par les GAFAM deviendront une possibilité tout aussi légitime de découvrir les merveilles du monde qu'un vrai voyage, sans bouger de chez nous, juste avec un casque de réalité virtuelle. On nous offrira la possibilité de visiter une chapelle Sixtine ou un Grand Canyon, sans approcher les vrais. Est-ce que cela aura la même valeur, la même qualité, la même authenticité ? Nous sommes dans la situation de la reproduction et après tout, les métaverses vont s'améliorer au point de nous faire sentir les odeurs et peut-être même le vent chaud qui souffle en Arizona. Cette solution évitera les voyages, supprimera l'utilité des avions, réduira donc notre bilan carbone et surtout nous fera voyager sans aucun risque. Qui est preneur ? Je suis sûr, pas grand monde.
J'ai pas besoin de faire le tour du monde. J'ai pas besoin de vivre la vie de James Bond. Pas la peine de courir après ma vie. Pas la peine de gagner à tout prix. Je veux des fruits tombés du ciel, pas des arômes artificiels. Je veux une vie ensoleillée, pas dans les cabines UV. Je veux des discours authentiques, pas les refrains des politiques. Je voudrais voir, voir, voir tout changer. Je veux du vrai, eh, 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 du vrai, eh, 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 eh. Tant pis si ça prend du temps. Je veux du cœur des sentiments. Je veux du vrai.
Car nous cherchons l'authenticité lorsque nous voulons approcher un monument. Nous voulons être au contact avec ce qui a fait l'histoire du monde et nous sommes frustrés de n'avoir qu'une imitation, surtout lorsqu'elle est virtuelle. Si ce n'était pas le cas, si nous pouvions nous contenter des copies, plus personne ne ferait la queue dans les musées, plus personne n'aurait d'émotion en imaginant que la Joconde qu'on contemple au Louvre est parfois un faux pour permettre aux vieux tableaux de se restaurer. Nous voulons être plus près de ce que Léonard de Vinci a peint il y a 500 ans. L'identique, tiré du latin idem, qui est le même, évoque le caractère de ce qui est semblable, le même, ou qui ne présente qu'une seule réalité malgré des approches différentes. Or, deux éléments font que rien ne peut rester identique.
Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout. J'espère que tu me comprends.
Le temps qui passe, qui abîme, surtout quand c'est doublé par des événements violents comme l'incendie de Notre-Dame, et d'autre part, la multiplicité des approches que nous offre désormais la technologie. Nous avons des photos, des films de Notre-Dame. Nous l'avons tous en mémoire. Nous pouvons célébrer ce monument presque à chaque instant de notre journée. C'est en partie pour cela que nous y sommes si attachés. Au XIXe siècle, lorsque Victor Hugo remit ce vieil édifice religieux à la mode et que Eugène Viollet-le-Duc, en 1844, décida des plans, personne ne se souciait qu'elle retrouve sa forme originelle, car tout le monde l'avait oubliée. La restauration à l'époque dura 20 ans, presque le temps d'une génération, le temps d'oublier. Aujourd'hui, nous cultivons notre nostalgie en contemplant ce qui n'existe plus.
Je crois que la modernité, c'est pas automatiquement faire le contraire de ce qu'il y avait avant. Et c'est pas automatiquement marquer quelque chose qui est avant tout un témoignage. Je crois que ce que nous a rappelé cet événement, c'est l'extraordinaire pouvoir qui est celui de créer une émotion. C'est la puissance de l'architecture comme principe d'émotion. Et ça, je crois qu'on l'a oublié, parce qu'il faut pas confondre l'architecture et la construction. Ce qui est important pour les grands témoignages, c'est de conserver leur pouvoir d'émotion. Alors évidemment, Notre-Dame de Paris est aussi un exemple de sédimentation. Il y a eu différentes interventions dans le temps. Mais il y a un jugement historique qui se fait aussi en fonction de la qualité de cette sédimentation et des époques qui constituent les bâtiments. La plupart des palais, des grands bâtiments, sont constitués de plusieurs époques, qui sont soudés comme ça.
Nous sommes mélancoliques en voyant nos vieilles photos, les personnes disparues, les enfants qui ont grandi. Et nous, qui changeons sans cesse, aimerions tant que le passé reste. Nous rêvons de permanence. Nous aimerions que rien ne change. Alors que c'est le flux du changement qui rythme la réalité.
La tête que j'ai aujourd'hui, je la regretterai dans 10 ans. Alors, pour me tirer le portrait, j'ai choisi la pellicule couleur Konica. Pellicule couleur Konica, la boîte à l'arc-en-ciel, pour garder une bonne image.
Le philosophe grec Héraclite nous avait déjà appris la difficile vérité. Aucun homme ne peut traverser deux fois le même fleuve, car ni l'homme ni l'eau ne seront les mêmes. La permanence n'existe pas dans ce monde. La cathédrale dans laquelle nous pénétrerons aura peut-être l'apparence de la précédente, mais ce ne sera plus la même. Nous sommes condamnés à accepter le temps et sa dimension irréversible. Héraclite a écrit au VIe siècle avant notre ère, mais déjà il notait notre insensée quête de la permanence dans le monde. Nous ne pouvons pas puiser sans cesse dans le passé pour croire que notre identité s'enracine dans la reproduction à l'identique. Il faut accepter le changement vers l'avenir. S'il y a de l'identique, il n'appartient pas à ce monde, mais à un autre. Il y a de la permanence dans les mathématiques, il y a de la permanence dans les idées, dans un monde intelligible, décrit plus d'un siècle après Héraclite par un jeune Platon, qui s'étonnait du rôle du temps dans notre réalité. Faudra-t-il donc examiner cette cathédrale pour espérer qu'elle soit la même ou sera-t-elle définitivement une autre ? Je ne doute pas un instant que des foules impressionnantes de touristes et de fidèles du Vatican se presseront dès le mois de décembre avec dans les mains des photos d'édifices, mais qui ne s'y trompent pas. Ils ne seront pas dans la même cathédrale que celle que Victor Hugo a foulée de ses pieds et qui regardait Paris du haut de ses 900 ans. Cette cathédrale immortelle n'est rien d'autre qu'une idée, une belle idée. Mais rien d'autre qu'une idée.
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Hey, hey. c'est tout. Et pourtant, bien des gens se sont mis à genoux pour prier.
Oui, pour prier.
Pour prier.
Oui, pour prier.
Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons. J'ai pleuré.
Oui, j'ai pleuré.
J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que
je remercie RPH Sud et Radio Pays d'Hérault d'avoir permis la réalisation de cette chronique, tout particulièrement Solène pour la prise de son et la technique, ainsi que Samuel pour le montage. Vous pouvez retrouver ces chroniques publiées aux éditions BOD sous le titre « Chroniques par Mont et par Vaux ». Et je laisse ce dernier mot à Jacques Higelin.